Voilà, bonjour, j'ai parmi vous ce soir. Joie évidemment grave vu tout ce qui se passe en ce moment sur notre terre. Et il nous accable tous. Je ne peux m'empêcher évidemment d'en parler parce que le sujet qui m'a été proposé fait douloureusement écho d'une certaine manière à ces événements et je serai amenée forcément à en parler. Et je pense que tout à l'heure, quand nous aurons un échange, nous pourrons parler aussi de cette tragédie épouvantable. Donc le thème proposé, l'homme appelé à se réaliser en parachevant l'œuvre de création. Voici donc le titre tel que je l'ai noté. Et bien sûr, je n'ai pas tout à fait réalisé la complexité de ce thème lorsque j'ai accepté. Ce sujet est immense. Je sais de plus que vous avez eu plusieurs conférences dans l'année, donc, traitant de ce thème « Dieu dans l'histoire de l'humanité ». Ce soir, j'ai choisi de suivre à la lettre ce sujet, cet intitulé, en essayant de méditer chacun des membres de la question. Alors, rassurez-vous, je ne séparerai pas les articles des substantifs. Ça serait trop long. La première partie portera donc sur l'homme. Pour traiter cette question, donc l'homme appelé à se réaliser, il me semble important, intéressant de s'interroger sur l'homme. De quel homme parle-t-on? En évoquant l'homme appelé à se réaliser, ne pose-t-on pas une sorte de paradoxe de départ, ce qu'on pourrait peut-être appeler le double infini de l'homme, dans le sens où l'homme est en même temps infini dans le sens d'inachevé, pas encore accompli, d'où cet appel à se réaliser, et infini aussi dans le sens d'une plénitude promise et comme déjà présente par anticipation, et qui se laisse entendre dans cet appel, cette vocation à l'accomplissement. Donc ma première question, ce sera qu'est-ce que l'homme? La deuxième question, donc je vous annonce un petit peu mon plan avant de commencer, il y aura trois parties à chaque fois. La deuxième question touchera l'œuvre de création. Qu'entend-on par œuvre de création? Comment comprend-on que Dieu a créé le monde? La création a-t-elle une histoire dans le temps? Où échappe-t-elle à cette histoire, à toute signification, avant de faire à une création continue? Enfin, voilà le genre de questions qu'on peut se poser, que je ne ferai qu'aborder évidemment ce soir, parce que qu'est-ce qui sait même, parce que c'est tellement énorme. Et le dernier point touchera finalement au verbe qui se situe au cœur de la question, parachever. Hein, parachever. Sachant que ce parachèvement de la création pose bien sûr la question de la responsabilité de l'homme, de l'utilisation de sa raison aussi, et la vision du temps. Alors, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Quand je me suis posé cette question, j'ai tout de suite pensé bien sûr au psaume 8. Qu'est-ce que l'homme? Et je voudrais commencer par ce premier point qui est le sens d'un étonnement. Je voudrais donc partir de cette question telle qu'elle s'exprime en effet dans le psaume 8, Ma Enoch, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en soucies? Qu'est-ce que le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Cette question exprime un étonnement et cet étonnement dit quelque chose de ce qu'est l'homme. L'homme est capable de s'étonner. Il est capable de se questionner. Il est capable de poser la question qui jaillit de son propre étonnement. Mais en l'occurrence, le psaume est une prière, ce n'est pas un discours. Ce n'est pas un discours philosophique où le sujet du discours se séparerait de l'objet qu'il désire traiter. Un petit peu comme Descartes, avec son cogito ergo sum, hein, je pense, donc je suis. Ici, nous sommes dans une parole très particulière, une parole qui est prière, une parole qui naît d'un vis-à-vis entre l'homme et celui devant qui il se place, bien qu'il soit invisible. Donc l'homme qui prie se situe à l'intérieur de la question qu'il pose. Car s'il la pose, c'est bien parce qu'il est engagé dans ce mouvement où il sort de lui tout en étant lui. Et ce qui fait sortir l'homme de lui-même dans les psaumes, et dans ce psaume en particulier, c'est l'admiration, c'est la louange envers la puissance du nom du Dieu créateur. Seigneur, ton nom est un nom magnifique. Mais tout en sortant de lui-même, comme arraché à lui-même par cette admiration, l'homme ne reste pas à l'extérieur de lui-même. Il ne reste pas, par exemple, dans l'extase, même si l'extase peut parfois être une tentation. Mais non, l'émerveillement de l'homme devant Dieu, par un jeu de miroir, fait retourner l'homme à lui-même, pour un double étonnement. D'abord l'étonnement du contraste, Dieu est si grand par son nom et par ses œuvres, et l'homme est si petit. Et si l'on en reste à ce premier étonnement, la conscience du contraste, et cela peut nous arriver à tous, peut devenir parfois une conscience malheureuse, désespérée, hantée par le sentiment de la démesure et de l'absurde. On peut penser à l'effroi de Pascal devant le fameux silence des espaces infinis. Mais voilà, le psalmiste nous entraîne dans un second étonnement. Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes? Le fils de l'homme pour que tu te le rappelles? Le second étonnement concerne donc la mémoire de Dieu, ou plus exactement, la mémoire de cet homme si petit, si faible, mais pourtant présent dans la mémoire de Dieu. Étonnement qui se prolonge dans le fait que, à partir de la mémoire de Dieu, le psalmiste peut dérouler sa propre mémoire de ce qu'est l'homme aux yeux de Dieu. Et le psaume dit, à peine inférieur aux êtres divins, couronnés de gloire et de splendeur. Et il ne s'agit pas là, de la part du psalmiste, d'un orgueil, d'une hubris, d'une volonté de puissance de la part de l'homme. Il s'agit d'un être ou d'une âme reçue de Dieu. Par l'émerveillement devant Dieu, l'homme cesse d'être enfermé en lui-même, et par l'étonnement devant le soin que Dieu lui porte, il peut retourner à lui-même. Il est dans cet incessant mouvement de vie. Et c'est, me semble-t-il, en tant qu'il est dans ce mouvement entre sortir de soi, rentrer en soi, devant Dieu, que l'homme va être appelé à se réaliser. Ce mouvement vers le dehors, puis vers le dedans, c'est sans doute ce qu'il y a de plus fondamental à transmettre, à enseigner aux enfants et aux jeunes, parce que c'est ce que j'appelle donc l'éveil d'une conscience reconnaissante. Voici donc pour cette première ébauche de méditation sur l'homme, invité à la conscience reconnaissante. La deuxième question, c'est l'homme est-il bon ou mauvais? L'homme, l'humain, prenant conscience de lui-même, de ses sensations, de ses sentiments, de son rapport à l'autre, s'est vite interrogé sur le bon et le mauvais, ce qui fait du bien et ce qui fait du mal. Et par conséquent, une question s'est posée, et une question ne cesse toujours de se poser, l'homme est-il bon ou mauvais par nature? Où doit-il ce qu'il est à sa condition? Et nous savons que différents courants de pensée se sont constitués autour de ces questions. Pour donner un exemple, au temps de la naissance des églises chrétiennes, le dualisme gnostique qui florissait dans ces premiers siècles de notre ère considérait que tout ce qui relevait de ce monde était mauvais, impur, et que seuls ceux qui s'élevaient dans la connaissance des mystères du ciel pouvaient s'extraire des aléas de la condition humaine. Alors je sais que c'est une manière un peu rapide de parler de la gnosticisme, mais ça suffira pour notre propos. Alors l'Église jugea cette position et ces positions hérétiques, donc ce dualisme hérétique, en désaccord radical avec la théologie biblique. De nombreux siècles plus tard, on connaît cette pensée de Rousseau affirmant que l'homme naît naturellement bon et heureux, c'est la société qui le corrompt et le rend malheureux. Donc là, on est à l'opposé de ce dualisme gnostique. Et entre ces deux avis extrêmes, nous pouvons mettre face à face deux positions, l'une protestante dans la lignée de saint Augustin et l'autre catholique dans la lignée de saint Thomas d'Aquin. Enfin, c'est pareil, je radicalise un petit peu pour mon propos, mais je crois que ce sont quand même des choses à peu près justes. La position protestante dans la lignée de saint Augustin insiste plutôt sur l'incapacité foncière de l'homme à faire le bien par lui-même et insiste donc sur le rôle absolu de la grâce de Dieu qui sauve l'homme de lui-même et a le pouvoir de le transformer. En revanche, la seconde, plutôt inspirée de saint Thomas d'Aquin, affirme que l'homme, s'il a besoin de la grâce de Dieu, évidemment nous sommes bien en effet dans le contexte du christianisme, a néanmoins les ressources en lui-même pour coopérer activement à son salut. Mais dans les deux cas, il s'agit de théologie construite à partir de lecture et d'interprétation de la Bible. Ce problème du bien et du mal, nous savons tous que la Bible le met en scène dès le troisième chapitre de la Genèse, où il est question de ce bien et de ce mal et de la responsabilité de l'homme. Alors, je ne vais pas vous raconter à nouveau l'histoire, le second récit de la création et le troisième chapitre. Je vais juste esquisser un petit peu rapidement ce qui est nécessaire à ma proposition. C'est que nous voyons que le début du récit nous présente l'homme et la femme, non pas comme bons, mais comme des créatures innocentes et inconscientes. Et moi, je choisis de le lire de cette manière. Alors, on peut dire que c'est bon, mais moi, je choisis de le lire par rapport à notre sujet sur cette question de l'innocence et de l'inconscience. Et leur seule arme, d'une certaine manière, dont ils ne sauront pas se servir, est la parole de leur créateur, qui leur a dit, en s'adressant à l'homme, qui a dû certainement le transmettre à sa femme, « Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, vous n'en mangerez pas ou vous mourrez. » Alors, nous pouvons y voir dans ces paroles un paradoxe, car la transgression du commandement divin a certes une portée négative, mais elle a également une portée positive. Si péché d'origine il y a, c'est celui de la méfiance envers Dieu, distillé par la langue venimeuse du serpent calomniateur, car nous savons que ce soupçon sur les intentions divines, accompagné de la promesse illusoire d'une puissance humaine, va entraîner la rupture entre l'humain et Dieu. Mais en même temps, et d'un autre côté, la transgression va également permettre à l'humanité d'acquérir la conscience du bien et du mal, sans laquelle il n'y a pas d'humanité. Par conséquent, la malédiction qui précède la sortie d'Éden comporte sa part de bénédiction, D'ailleurs, la femme ne reçoit son nom, elle, Chaya, mère de tous les vivants, qu'à la fin du récit. La vie sera rude pour nos premiers parents, mais ce sera la vie. En devenant mortels, ils entreront dans l'histoire, dans le temps, protégés par le vêtement que Dieu leur aura mis sur le dos. Dans ce récit fondateur, me semble-t-il, le mal n'apparaît pas comme consubstantiel à la nature humaine. Il n'apparaît pas non plus comme un simple accident lié à la condition humaine. Entre nature et condition, il y a l'être de l'homme, le néphèche, qui est le lieu de la liberté. Or, le lieu de la liberté est aussi le lieu de la fragilité, le lieu de la tentation, mais encore le lieu du repentir, le lieu de la grâce de Dieu, le lieu de l'amour. Donc nous avançons un peu dans cette, peut-être dans cette connaissance de l'homme qui est appelé à se réaliser. Mais il faut se poser une dernière question sur cet homme appelé à se réaliser. Quelle est la vocation de l'homme ? Que lit-on dans les premiers récits de la Genèse ? Dans le premier texte, l'humain est créé le sixième jour à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est créé par la parole, comme couple, masculin et féminin. Cette création est jugée très bonne par le Créateur lui-même. Et s'adressant au premier couple, il l'invite à se reproduire et à habiter la terre et dominer l'ensemble des créatures. Le second récit, complément du premier, raconte comment Dieu façonne l'homme de la poussière du sol, donc comment il lui offre la jouissance de tous les arbres du jardin à l'interdiction de celui que je viens de nommer, comment il constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et comment, le faisant tomber dans une torpeur, il crée la femme, os de ses os et chair de sa chair, l'invitant alors, au moment de son réveil, à quitter père et mère pour aller vers sa femme. La vocation de l'homme tient à un verbe, vivre, et donner vie. Et il me semble que toute la Bible va s'attacher à caractériser et à décliner ce verbe, en commençant par l'union, la procréation, le peuplement de la terre et la nomination des êtres et des choses. Cette vie n'est pas réductible à la survie animale de l'individu ou de l'espèce. Cette vie humaine est assujettie à une exigence de sens et d'orientation. Autrement dit, elle est mue par l'esprit, ce fameux souffle, la roue. Et de ce fait, la vie de l'homme, la vie humaine, va devenir le fruit d'une décision, donc d'une liberté. Et on lit dans le Deutéronome au chapitre 30, versets 16 à 20, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Et un peu plus loin, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Ce texte est tout à fait étonnant, car nous l'entendons détachant l'homme de sa seule condition naturelle d'être mortel, Dieu lui propose la vie ou la mort comme le fruit d'un choix. Ceci, bien sûr, nous montre la nécessité d'une interprétation autre que purement physique ou biologique. La vocation de l'homme, c'est, tout en étant mortel, de ne pas choisir la mort, mais la vie. Qu'est-ce que cette vie ? C'est d'aimer Dieu et de suivre ses commandements afin d'habiter sur la terre promise. Mais présenter cela comme un choix, c'est réaffirmer la liberté et la volonté de l'homme. C'est aussi dire que pour l'humain, vivre, c'est vivre dans la question du choix entre la vie et la mort. C'est donc être conscient de l'infinie valeur de la vie. Dans l'interprétation qui en sera faite dans le Nouveau Testament, nous pouvons évoquer dans l'évangile de Jean au chapitre 3 l'entretien de Jésus avec Nicodème. Quand Jésus dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui dit, « Comment un être peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répond, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Cet appel à la vie exprime son accentuation fondamentale dans le judaïsme à travers le schéma Israël. L'écoute, la mise en pratique, la transmission de génération en génération. Dans le christianisme, il s'agit de l'appel à la vie nouvelle en Jésus-Christ, exprimé dans l'annonce de la résurrection, laquelle concerne bien moins l'au-delà que la vie présente. Mais en tout état de cause, l'anthropologie biblique propose un humain relationnel, à la fois créature et enfant de Dieu, un être de langage, né de la parole et pour la parole. Un être qui ne peut se réaliser, qui ne peut réaliser son projet de vie, son choix de vie, hors d'une alliance avec son Dieu, et donc avec son prochain aussi, dans l'amour. Alors voilà pour cette première partie, ce premier questionnement autour de l'humain, autour de cette question, donc, qu'est-ce que l'homme ? Et j'arrive maintenant à ma deuxième question qui concerne l'œuvre de création. Première question, processus naturel ou œuvre de création. Dans une mentalité cartésienne, on oppose souvent le concept de foi et celui de raison, le récit biblique de la création du monde et les explications scientifiques de l'origine du monde. À la limite, on tolère que là où s'arrête la connaissance, commence la foi. Ou à l'inverse, on entend parfois rétorquer que la connaissance ne fait finalement que corroborer des intuitions que la foi aurait exprimées avec les moyens dont elle disposait à une époque donnée. Pour ma part, je pense que cette opposition ou ce concordisme sont assez stériles, de mon point de vue, et surtout qu'ils nous distraient de la seule question théologique qui importe finalement. Dieu a-t-il cessé toute œuvre de création au-delà du commencement, au-delà du Bereshit? Ou alors, Dieu est-il toujours à l'œuvre dans sa création? Et de quelle façon? Si Dieu a cessé son œuvre de création, est-ce que cette œuvre est devenue tout simplement ce qu'on appelle la nature? Nature qui serait alors comme un peu orpheline, sinon qu'elle passe tout entière sous la responsabilité de l'homme Et alors, cet humain doit l'habiter, la travailler, la protéger, la transformer, tout seul? Ou alors, Dieu est-il toujours à l'œuvre dans sa création? S'agit-il d'une création continue? D'une certaine manière, le psaume 104, qui est un grand psaume de la création, suggère cette présence active et pérenne de Dieu dans la création. J'en lis quelques versets. « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Certains théologiens américains ont fondé ce qu'on appelle la process theology, et qui est une théologie du processus, si on peut traduire comme ça, qui est très intéressante, en parlant du dynamisme créateur de Dieu, un Dieu donc toujours à l'œuvre dans sa création. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant dans leur proposition, alors que je résume bien sûr parce que c'est un petit peu plus complexe et plus riche, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces théologiens voient donc en Dieu un Dieu en mouvement, un Dieu touché lui-même par la vie et l'évolution de sa création. Donc ce n'est pas un Dieu immobile et impassible, mais un Dieu mu et ému par son œuvre, qu'on pourrait comparer à l'artiste qui ne sort jamais indemne de son propre travail, de sa propre œuvre de création. Voilà, donc si cette proposition me semble intéressante, j'arrêterai là en disant que, de toute façon, lorsque l'on parle de la création, on se situe toujours, bien sûr, dans l'hypothèse et dans le mystère. Mais bon, je crois que les humains aiment les hypothèses et les mystères. Ma deuxième question va rejoindre évidemment notre actualité, mais je l'avais prévue en fait avant que cette tragédie arrive, c'est comment comprendre les cataclysmes. Je l'avais prévu, pourquoi ? Parce que, juste quelques chapitres après les récits de création, vient l'épisode du déluge, où la création tout entière est anéantie, bon, à part Noé bien sûr. Les écrivains bibliques ont rationalisé ce désastre d'une manière bien sûr qui nous semble inacceptable aujourd'hui, en lui trouvant une cause. Ils l'ont présenté comme un châtiment pour le mal commis sur la terre. Et seul Noé, donc présenté comme le modèle de l'homme juste, trouve grâce auprès de Dieu, invité à construire une arche, il y fait monter sa famille et une paire d'animaux choisis pour être sauvés avec lui. Puis, je vous rappelle, à la sortie de l'arche, Dieu fait alliance avec Noé et avec toute l'humanité en s'engageant, en regardant son arc-en-ciel, à ne plus anéantir sa création. Cette théologie de la rétribution, voulant que les cataclysmes ne soient pas le fruit du hasard ni de l'arbitraire divin, a très longtemps régné sur les esprits. Et elle ressurgit d'ailleurs régulièrement lors de grands malheurs. Alors là, je ne l'ai pas entendu cette fois-ci, mais je me souviens lors du tsunami qui avait frappé l'Asie du Sud-Est, je me souviens avoir entendu certains discours dire à l'époque que c'était la faute des impies ou des mauvais musulmans. Aujourd'hui, comme je le disais, cette rationalisation est devenue inacceptable pour la plupart d'entre nous. Et qui oserait aujourd'hui dire que le tremblement de terre et le tsunami qui viennent de frapper le Japon sont des punitions divines pour les mauvaises actions des hommes? Ou qui encore justifierait le malheur en le présentant comme une épreuve voulue par Dieu ou un mal nécessaire? Samedi dernier, dans sa revue de presse, Yvan Levaille évoquait le fameux poème de Voltaire après le tremblement de terre qui avait frappé la ville de Lisbonne le 1er novembre 1755. Et tout à l'heure dans l'avion, j'ai lu le Monde d'aujourd'hui, et dans la chronique, Franck Nouchi évoquait également Voltaire. Donc en rappelant que le philosophe s'opposait aux thèses optimiste de Leibniz, affirmant que le monde créé par Dieu était organisé par la Providence de manière à ce qu'un mal nécessaire, en proportion infime, soit compensé par un bien toujours plus grand. Toujours une manière d'essayer, vous voyez, de domestiquer l'angoisse d'une certaine façon, en donnant des explications, en rationalisant. Mais à l'époque, Rousseau avait répondu à Voltaire. Alors je vous lis quand même la réponse de Rousseau. Je ne vois pas qu'on puisse chercher la source du mal ailleurs que dans l'homme libre, perfectionné, par temps corrompu, et quant aux maux physiques, ils sont inévitables dans tout système dont l'homme fait partie. La plupart de nos maux physiques sont encore notre ouvrage. Sans quitter votre sujet de Lisbonne, convenez par exemple que la nature n'avait pas rassemblé là 20 000 maisons de 6 à 7 étages, et que si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus également et plus légèrement logés, le dégât eût été beaucoup moindre et peut-être nul. Combien de malheureux ont péri dans ce désastre pour pouvoir prendre l'un ses habits, l'autre ses papiers, l'autre son argent. Donc c'est assez terrible quand même cette discussion entre les deux philosophes, mais on comprend tout à fait la révolte de Voltaire contre cette théorie optimiste, voulant que finalement la Providence a toujours raison et qu'elle a toujours bien calculé, y compris l'intégration des malheurs de la création et de la créature dans le plan divin. Alors ma dernière partie, touchant à la création, concernera la souffrance dans la création et la souffrance de la création. Si les cataclysmes pose la question du mal, c'est parce que la création est le lieu de la vie, vie végétale, vie animale et surtout vie humaine. C'est bien la souffrance de la vie, et notamment de l'homme, qui provoque une interrogation sur le pourquoi et le comment des cataclysmes. Et ceci repose sur le fait que dans le monde biblique, l'homme est au centre de la création. Il est l'élément pensant, l'élément reconnaissant et l'élément conscient de la souffrance. Et si d'un côté, il cherche bien sûr et de plus en plus des réponses dans l'investigation scientifique, et nous l'avons vu ces jours-ci à la télévision, hein, où des géologues, docteurs sont venus aussi nous expliquer ce qui s'était passé dans la Terre, sous la Terre, sous la mer, à un autre niveau, l'humain cherche du sens auprès de celui qu'il appelle Dieu. Et ce peut être par la prière, ce peut être par la prophétie apocalyptique, ou ce peut être par le récit théologique. Il cherche du sens et il cherche à donner du sens. Mais ce qui apparaît en tout état de cause dans la Bible, c'est une solidarité profonde entre tout ce qui est de l'ordre du créé, entre toutes les créatures. Aussi, de même que l'homme souffre des aléas cosmiques, mettant sa vie en péril, la création souffre des aléas de l'histoire humaine. Elle souffre dans l'attente d'un accomplissement à venir. Et voici ce que nous pouvons lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Cette souffrance de la création, ce mal présent dans la création, on les trouve également exprimés d'une autre manière dans la tradition juive avec la théorie du Tzimtzum, donc du retrait de Dieu et de la brisure des vases qui a permis l'irruption du mal dans le monde. Et de ce fait, alors nous en reparlerons peut-être tout à l'heure s'il y a des questions, mais vous avez eu déjà des conférences sur ce sujet, de ce fait, toute la création se trouve dans le temps du tikkun, dans le temps de la réparation du monde, jusqu'à la venue des temps messianiques. Et chaque génération se trouve alors responsable vis-à-vis du monde entier de participer à cette réparation en multipliant les actes de justice et de miséricorde. Alors j'arrive maintenant, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, à ma troisième partie, qui sera la dernière, ce fameux parachèvement de la création. Le parachèvement de la création pose plusieurs questions. La place de la raison humaine, la question de l'enseignement de Dieu, la vision du temps. Le monothéisme place l'homme au centre de la création, sachant que l'homme donc, est le vis-à-vis de Dieu. Il est la créature à laquelle Dieu s'adresse dans le cadre d'une révélation et d'une alliance pour l'instituer responsable de la création. Mais comment, sous quel mode s'exprime cette responsabilité? Comment se vit-elle dans le temps? D'abord, quelle est la place de la raison dans les œuvres des hommes? Dans son catéchisme, l'Église catholique affirme le principe de la loi naturelle. Et je lis quelques passages. Présente dans le cœur de chaque homme et établie par la raison, la loi naturelle est universelle en ses préceptes et son autorité s'étend à tous les hommes. Elle exprime la dignité de la personne et détermine la base de ses droits et de ses devoirs fondamentaux. Et le catéchisme n'hésite pas à citer les anciens, Cicéron par exemple. Il existe certes une vraie loi, c'est la droite raison. Elle est conforme à la nature, répandue chez tous les hommes. Elle est immuable et éternelle. Ses ordres appellent au devoir. Ses interdictions détournent de la faute. C'est un sacrilège que de la remplacer par une loi contraire. Il est interdit de n'en pas appliquer une seule disposition. Quant à l'abroger entièrement, personne n'en a la possibilité. Je cite encore saint Thomas d'Aquin, toujours cité par le catéchisme. La loi naturelle n'est rien d'autre que la lumière de l'intelligence mise en nous par Dieu. Par elle, nous connaissons ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Cette lumière ou cette loi, Dieu l'a donnée à la création. Je lis encore. La loi naturelle énonce les préceptes premiers et essentiels qui régissent la vie morale. Elle a pour pivot l'aspiration et la soumission à Dieu, source et juge de tout bien, ainsi que le sens d'autrui comme égal à soi-même. Elle est exposée en ses principaux préceptes dans le Décalogue. Cette loi est dite naturelle, non pas en référence à la nature des êtres irrationnels, mais parce que la raison qui les dicte appartient en propre à la nature humaine. Alors si j'insiste, c'est parce que nous allons voir la différence d'approche du protestantisme. Donc pour l'Église catholique, l'humain, en s'appuyant sur sa raison éclairée par l'enseignement de l'Église, a donc le pouvoir de parachever la création dans le sens de la loi naturelle. Et moi, c'est ce que je comprends. Et à la différence de l'Église catholique, les réformateurs et le protestantisme n'ont pas retenu le concept de loi naturelle. Car, peut-être plus pessimiste, en s'appuyant sur saint Augustin, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si saint Augustin est également cité dans le catéchisme de l'Église catholique, ils opposent à la capacité de la raison humaine sa fragilité. À partir de la raison humaine, l'homme est capable du meilleur, mais il peut aussi l'utiliser d'une manière pervertie. Et en tout cas, cette raison ne peut permettre à l'humain de lire les desseins de Dieu. Car il y a en l'homme quelque chose de plus profond que la raison. Donc dans cette vision anthropologique du protestantisme, c'est cette faille originelle qui va avec sa liberté et qui le rend susceptible de connaître le mal. Ce dont l'homme a besoin en premier, ce n'est donc pas de la loi naturelle, mais c'est avant tout de la grâce de Dieu qui le libère du poids du péché et le rend responsable de la sanctification du monde, ce qui est une autre manière de parler du parachèvement de l'œuvre de création. Je dirais donc que dans le protestantisme, c'est dans un second temps que la raison humaine va retrouver tous ses droits. Autrement dit donc, elle ne permet pas à l'homme d'accéder au dessein de Dieu en lisant une sorte de loi naturelle, car les desseins de Dieu restent insondables en eux-mêmes, mais en revanche, la raison humaine permet de mettre en œuvre le projet de Dieu pour le monde, donc à partir d'une relation avec Dieu restaurée par la grâce et en suivant bien sûr la parole de Dieu telle qu'elle nous est transmise à travers les Écritures. Alors si c'est un petit peu compliqué, on en reparlera tout à l'heure de cette différence de vision. Mais dans mon optique, je suis toujours dans la pluralité des interprétations et donc je veux dire que pour moi une approche n'invalide pas l'autre approche. Hein. Je crois qu'en tant qu'humain justement, nous sommes toujours dans un certain point de vue et nous avons besoin des autres points de vue. J'en viens maintenant donc à cet enseignement de la parole de Dieu. Pour un croyant, la vie, l'action, la participation à l'existence du monde, le parachèvement de l'œuvre de la création, tout cela est guidé par un enseignement. Enseignement des Écritures, enseignement de la tradition, enseignement de la Torah et du Talmud. Dans tous les cas, la question qui se pose est celle de l'interprétation, des interprétations. Si l'on prétend que Dieu nous écrit en direct ce que nous devons faire pour habiter sa création, pour la peupler, pour la rendre habitable, il y a de bonnes chances qu'en réalité, nous fassions une sélection de ce qui nous plaît et que nous y mettions nos projections bien humaines. Il y a également de bonnes chances que nous soyons très anachroniques dans notre manière de vivre, car les Écritures demandent à être actualisées. Alors évidemment, disant cela, j'ai pensé aux Amish, par exemple. Donc, ces protestants qui viennent de Suisse ou d'Alsace, qui ont gardé jusqu'à nos jours un style de vie extrêmement rustique, voulant appliquer donc les enseignements directs de la Bible, Alors, quand ce style de vie peut être, ma foi, un beau témoignage spécifique de foi et d'une vie très très écologique, mais je ne pense pas que ce soit réalisable ni même souhaitable à grande échelle. Les Écritures, là où les traditions sont faites pour être interprétées. Et ces interprétations construisent ou fondent une morale, une éthique, une manière de vivre dans le monde. Dans le protestantisme, il y a une parabole de l'Évangile qui joue un rôle très important pour illustrer comment aborder la question de l'éthique et ce qu'on appelle donc avec Calvin la sanctification, sanctification de l'être humain et sanctification du monde. Cette parabole, c'est la fameuse parabole des talents. Alors, je ne vais pas vous dire toute la parabole des talents. Il est dit donc que le maître, un maître confie à chacun de ses trois serviteurs un nombre de talents proportionnel à ses capacités. Le talent, c'est une unité monétaire importante à l'époque. Et le premier des serviteurs se presse de faire fructifier les 5 talents qui lui ont été confiés et il en gagne 5 autres. Le deuxième fait valoir ses 2 talents et en gagne 2 autres. Et le troisième, apeuré, cache vite son talent dans la terre pour ne pas le perdre et pour ne pas se le faire voler. Quand le maître revient, chacun des serviteurs lui rend des comptes. Et donc, il félicite chaleureusement les 2 premiers serviteurs et il punit le troisième. Il est souvent dit que cette parabole a pu servir de fondement au capitalisme. On cite souvent Max Weber. La réalité, bien sûr, est plus complexe. Mais ce qui est juste, c'est que l'interprétation de cette parabole a pu fonder véritablement le sentiment de la liberté et de la responsabilité humaine dans le sens de l'initiative. Parachever l'œuvre de création, ce n'est pas garder tel quel, en l'état, le monde qui nous est confié, mais c'est bien le faire fructifier, l'aménager pour le rendre plus vivable dans le sens du partage, de la justice et de la paix. Dans cet esprit, le travail, malgré son étymologie, c'est que tripalium c'était un instrument de torture, le travail n'est pas de l'ordre de la punition, comme on peut le voir dans l'histoire de la sortie d'Éden, quand même, Adam doit aller gagner la sueur de son front. Ce n'est pas donc de l'ordre de la punition, ni de l'ordre de la seule nécessité, mais de l'ordre de la vocation et de la responsabilité. L'homme est appelé à se réaliser aussi à travers son travail et ses activités. Et en allemand, le mot Beruf, qui veut dire donc travail, métier, signifie également vocation. C'est le même mot, je crois que c'est très fort que ce soit le même mot. Mais en ce sens, la réforme a marqué une véritable révolution aussi sur le plan culturel, avec la valorisation du travail. Par conséquent, le progrès généré par le travail et les activités humaines ne suscite pas de méfiance en soi. Il n'est pas en soi accusé de trahir la création de Dieu. Si critique qu'il y a vis-à-vis de ce progrès, ces critiques ne visent pas le principe du progrès, mais bien ses circonstances, ses applications, ses conséquences, son absence de limite. Il est important de rappeler cela à l'heure d'effroi que nous vivons actuellement devant l'accident nucléaire du Japon. Car, de fait, et nous l'entendons en ce moment même, je ne sais pas ce qui se passe ce soir, et ce qui est dit ce soir à la télévision ou dans les journaux, nous voyons, nous entendons qu'il devient nécessaire aujourd'hui, avant-hier déjà, de considérer que les extraordinaires prouesses de la technique et de la science ont des capacités de destruction qui dépassent l'imagination. Il ne faudrait pas donc que le parachèvement de la création finisse par signifier son anéantissement. Mais d'un autre côté, il ne faudrait pas non plus que l'homme devienne la bête noire de la création, comme le laissent parfois entendre certains types de discours écologiques qui paraissent rêver d'un monde nettoyé, purifié et rendu à mère nature. Nous pourrions alors retomber dans une forme de paganisme et d'idolâtrie. Ceci m'amène à ma dernière sous-partie, la troisième partie, et donc à la fin de mon propos. L'être humain, la création, vivent dans le temps, dans la durée. La vision du temps proposée par la Bible n'est pas le temps cyclique de la nature. C'est un temps directionnel, un temps en devenir, un temps qui va vers son propre accomplissement. Et les trois grands mots qui balisent cette histoire du temps sont création, révélation, rédemption. De ce fait, l'humanité s'inscrit dans une histoire du salut et participe à cette histoire, une histoire du salut avec un commencement et une fin. Et en même temps, cette vision du temps, bien sûr, ne doit pas être comprise de manière chronologique, avec des dates qu'il faudrait deviner ou calculer. Il s'agit d'un temps théologique, du temps de Dieu, pour qui 1000 ans sont comme un jour, selon la parole du prophète Ésaïe. D'une certaine manière, cette vision dynamique du temps a pu façonner au cours des siècles l'idéologie du progrès. Même si, en contrepoint et en opposition, elle a pu également générer des ruptures millénaristes ou des messianismes politiques. Cette idéologie du progrès a peut-être connu son apogée en tant qu'idéologie, je dis bien, au début du XXe siècle, avant les grands cataclysmes historiques que furent les deux guerres mondiales. Et pour ma part, je ne peux m'empêcher de me souvenir de la réaction que j'ai eue quand j'ai vu le Titanic, ce fameux film, je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu également. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce film, j'ai vraiment vu le naufrage de l'Europe et le naufrage justement de cet optimisme du progrès qui allait résoudre tous les problèmes des hommes et de la création. Aujourd'hui, le progrès n'est plus vraiment de l'ordre de l'idéologie, mais il est devenu de l'ordre de la nécessité, comme une seconde nature sans laquelle nous ne pourrions plus vivre. Mais ce progrès né du temps est en passe de détruire le temps, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau social ou cosmique. Car finalement, le grand sacrifié de cette marche du progrès, c'est peut-être l'homme, nous le verrons, mais c'est également le septième jour, le temps du Shabbat. Ce jour où Dieu lui-même cessa son œuvre de création, en limitant par un acte de liberté souveraine sa puissance de création. Il me semble donc que le grand enjeu aujourd'hui pour notre monde n'est pas un retour illusoire dans le passé ou bien une sortie du progrès, et pourquoi pas une sortie de l'histoire, comme on en rêve parfois, mais c'est le grand enjeu de notre temps, c'est peut-être la réalisation de ce temps shabbatique tel que la tradition juive l'a porté et l'a incarné jusqu'à nous. Ce septième jour est absolument nécessaire, non seulement pour que l'être humain se repose, ainsi que la création, mais pour que l'être humain limite, sache limiter sa propre puissance, en se souvenant que tout lui vient de Dieu, et la création, et la liberté. Cette conscience propre au Shabbat me semble une nécessité fondamentale. Ce pourrait être aujourd'hui le pivot du choix entre la vie et la mort. Je plaiderai donc pour une écologie, mais une écologie du temps, une écologie refondée sur ce principe biblique de séparation entre les six jours où l'humanité est appelée à œuvrer en liberté et en responsabilité dans ce monde et pour ce monde, et le septième jour où l'humanité est invitée à lâcher son emprise sur la création pour goûter la joie de l'hospitalité et du monde à venir, pour goûter la joie merveilleuse de cet étonnement que j'évoquais tout à l'heure et qui s'exprime à travers le psaume 8. Il en va du sens de toute chose, du sens de notre vie, de notre monde, c'est-à-dire de ce choix fondamental posé dans le Deutéronome entre la vie et la mort. Je vous remercie.
Merci beaucoup, cher ami. C'était vraiment un éventail de merveilles parce que vous avez touché toutes les traditions, en tout cas judéo-chrétiennes, bien sûr. Vous avez exprimé en chacun de nous ce que nous avons de sensible, ce que nous pouvons vivre en tant qu'humains. Et puis surtout ce que tous nous recherchons, qui sommes-nous, pourquoi sommes-nous là, quel sens a notre vie, et dans cette magnifique création qui s'abîme beaucoup à nos yeux, sommes-nous responsables, que pouvons-nous faire? Alors, il y a à la fois quelques réponses, il y a des pistes, il n'y a pas vraiment de réponse, parce que vous ne pouvez pas en donner, et personne ne peut en donner, mais nous sommes en recherche. Et ça, cette recherche, surtout de nous parler de cette double façon d'être homme, dans l'infini et à l'infini, et nous sommes nous-mêmes infinis. Mais un jour, je pense qu'il faudra que nous soyons dans l'unité, dans notre unité. Et là aussi, ça nous est dit dans la tradition juive, puisque Dieu dit être un et soit comme moi-même, soit un dans cette unité. Et je crois que c'est que là, on aura peut-être trouvé vraiment quelque chose de fort en nous. Le mot écologie m'a plu aussi. Cette écologie extérieure que nous cherchons, et si nous la cherchions aussi à l'intérieur de nous. Vous avez bien parlé aussi de chercher à l'intérieur de nous, vraiment... pas des réponses, mais en tout cas, continuer à travailler sur nous, pour nous connaître. Et je pense que là, Dieu nous a tout donné en nous créant et dans ses paroles, que ce soit la Torah, que ce soit les évangiles pour le monde chrétien. Nous sommes très très riches de tout cela. Alors, merci d'en avoir fait un très vaste, un très bel éventail, magnifique, un bel exposé. Puis maintenant, vous allez, j'espère, vous, chers amis, poser des questions pour qu'on puisse continuer ce débat immense, immense, immense. Qui veut prendre la parole? Jean-Albert.
Voilà. ce processus, cette création toujours en mouvement, on pourrait penser aussi à la sortie d'Égypte. On croyait qu'avec la modernité, on s'était débarrassé de tous les esclavages et de tous les idoles. Et il faudra revisiter une relecture de la modernité parce qu'on a l'impression que cette modernité a réinstallé d'une manière sournoise de nouveaux esclavages et de nouvelles idoles. On a un travail important. Je pense qu'il ne faut pas remettre en question tout le travail de la modernité, parce que dans cette responsabilité humaine de cette création en vie permanente, en vie renouvelée, on est face à des enjeux importants sur la réhabilitation de la modernité. Je crois que c'est important parce que on est tellement certains courants philosophiques, théologiques sont tellement maintenant déçus par certains résultats de la modernité qu'on retrouve des courants fondamentalistes, on retrouve des courants entre guillemets réactionnaires, des courants qui reviennent sur une radicalisation de la tradition en disant ben, vous voyez ce que ça a donné la modernité. Je crois qu'il y a un travail d'honnêteté en profondeur pour dépister ces idoles et ces esclavages sournois et hypocrites qui se sont installés dans notre modernité, parce qu'il faut la défendre. Je crois que beaucoup de choses extraordinaires ont été faites dans ce XXe siècle en termes de droit, de justice, de progrès de la médecine, des progrès, par exemple, les droits de la femme. Je crois que les plus belles œuvres de la modernité, c'est l'égalité de l'homme et de la femme. Et il faut le redire à nos co-religionnaires traditionnalistes qui veulent donner si peu de place aux femmes dans nos religions, que ce soit dans certains courants protestants, catholiques et juifs, où la femme a encore du terrain à regagner. Certes, ce soir, tout semble gagner, mais on le sait que les réactions sont très fortes. Donc, comment, ma question pour finir après cet apport, comment recentrer cette modernité pour lui redonner des lettres de noblesse?
En écho donc à ce que vous venez de dire, je dirais que je suis vraiment profondément d'accord avec vous, c'est-à-dire que la tentation est toujours forte du balancier, où en effet on a envie de tout jeter et d'aider avec l'eau du bain. En pensant se débarrasser de tous les mots, si on revient, je ne sais pas quel âge d'or, ou enfin, il y a toujours des illusions comme ça. Et pour ma part, alors, je pense que quand on est femme, on est encore plus concerné, en effet, par ce genre de polémique ou de, parce que comme vous le dites, je crois qu'un des grands gains de la modernité, c'est quand même la libération de la femme, hein. Je veux dire que moi je pense souvent avec émotion à mes grands-mères, elles sont mortes avant de me voir dans le ministère, mais je pense que vraiment elles auraient été mais tellement heureuses, hein, de penser qu'une femme puisse être pasteur ou simplement parler en public ou etc. Enfin, des tas de choses qui semblent devenues tellement évidentes maintenant. Alors je pense qu'un des problèmes, c'est aussi que pour les jeunes générations, c'est peut-être l'inconscience de la liberté, l'inconscience justement vis-à-vis de tout ce qui a été obtenu de haute lutte parfois, et c'est finalement peut-être justement ce manque d'étonnement que j'évoquais avec le psaume 8 au début de cette conférence, qui fait qu'on ne voit pas la valeur des choses. Et donc un des fléaux qui conduit justement aussi à l'idolâtrie, qui est vraiment toujours une actualité, c'est finalement la banalisation. Tout est banalisé, rien ne vaut plus qu'autre chose, la confusion. Et je crois que aujourd'hui, Il me semble que nous avons peut-être c'est pour ça que quand je parle du temps, enfin de l'écologie du temps, c'est ce que je vois en fait. C'est-à-dire que là, moi, par exemple, la question du travail le dimanche, par exemple, ça, c'est vrai que ça m'a. Je vois bien dans les discussions que j'ai pu avoir avec des amis, qui s'en fichent un peu, si ça donne du travail aux gens, quand même, pourquoi est-ce qu'on priverait des gens de travailler? Enfin, ça paraît presque une faute morale que de contester, par exemple, le bien fondé du travail le dimanche. Et quand je dis que quand le sens symbolique des choses n'est plus perçu, quelque chose de grave se passe. Quelque chose de grave se passe. Et je crois que aujourd'hui, moi, je suis très sensible à cette question du temps parce que je disais tout à l'heure qu'il y a le niveau économique, il y a le niveau social, il y a le niveau cosmique, il y a aussi le niveau personnel où on voit le temps sans cesse éclater. Je veux dire, tout le monde dit j'ai pas le temps, je n'ai plus le temps, je n'ai le temps de rien. Le téléphone sonne de partout, les MSN, les SMS, on est connecté avec la terre entière, on est partout, à tout moment, joignable à tout moment, et quelque part, justement, par rapport à cette unité qu'évoquait Eliane, on voit bien qu'on a affaire à un être humain éclaté. Éclaté, donc, qui n'est plus concentré ou recueilli, et qui, de ce fait, justement, ne peut plus vivre la dimension symbolique des choses. Et je crois qu'on est dans quelque chose de grave, en fait. Je laisse la parole peut-être à...
Est-ce que quelqu'un d'autre, j'espère, veut prendre la parole pour exprimer? Alors moi, je vais faire une parenthèse de ce fait pratique. Je suis désolée, mais le pratique compte aussi. Comme je vois que les petites boîtes circulent déjà, que c'était pas prévu qu'elles circulent tout de suite, parce que j'avais une petite annonce à faire à propos des petites boîtes. Alors vous voyez, mais on est dans le temps, on est dans l'œuvre, on est dans... Voilà. Ces petites boîtes, vous savez que c'est toujours le petit don qui est pour la soirée, pour l'organisation. Mais ce soir, ce petit don, il est un peu spécial. Il est pour, effectivement, la venue de notre conférencier ou conférencière. Mais notre conférencière ne demande rien. Alors, vous savez que d'habitude, même lorsqu'il ne demande rien, c'est souvent le cas, nous faisons un don. Mais là, nous voudrions que ce don soit un tout petit peu mieux que d'habitude. Excusez-moi, hein, tout petit peu mieux. Parce que le temple de Limoges a besoin d'une petite aide pour se transformer, devenir parachevé. Voilà le bon mot d'Orbert, merci.
On peut dire parachevé parce que l'année dernière j'étais venue à Chambéry et que les travaux il y a deux ans concernaient le toit et les façades de notre temple. Et donc Chambéry, les amis qui étaient présents là ont participé à ce toit, mais là voilà, ce n'est jamais fini les travaux, vous savez. Et donc, comme ce temple a 150 ans, nous avons des sanitaires, mon Dieu, qui nous font honte. Donc un sanitaire, et qu'il faut absolument, qui est d'ailleurs quasiment parachevé parce que tout est détruit autour, et nous devons construire donc des sanitaires pour notre temple réformé de Limoges. Alors vous imaginez les pensées émues que nous aurons plus tard quand nous penserons à vous.
Je voulais effectivement dire pour la suite, lorsque nous irons à Limoges ou lorsque nous penserons Limoges, nous penserons au temple et nous penserons au parachèvement que nous aurons eu avec une émotion. Alors là, je ne sais pas si c'était pour ce lieu précis, ou en tout cas, on pourra aider un tout petit peu. Alors, merci de bien faire circuler ces boîtes, comme c'est fait d'habitude. Hein. Je sais, vous êtes généreux, mais peut-être ce soir encore plus. Merci. Alors, voilà, je referme cette parenthèse. Et puis nous continuons quand même dans un questionnement peut-être un peu plus spirituel, un petit peu plus profond, sur la quête de l'homme. Il y a beaucoup à dire quand même sur qu'est-ce que l'homme, la quête de l'homme. Il n'y a pas plus de questions que cela en Norbert.
Merci. Moi, je voudrais redire ce que Eliane a dit pour les remerciements. Je pense que toute la salle partage. J'ai plusieurs choses à dire, c'est un peu confus. Mais d'abord, vous remerciez pour quelque chose de bien précis. Vous remerciez pour ce que vous avez dit au sujet de l'inacceptable. C'est-à-dire, la rationalisation est inacceptable. Trop souvent, longtemps, on ne l'a pas entendu encore, mais ça va venir. C'est venu pour le sida, c'est venu pour plein de choses. Et donc, ça va venir bientôt. Ce que vous avez dit aussi, également inacceptable, le concept de théodicée de Leibniz, parce qu'on retrouve encore ça. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup aussi d'avoir évoqué le concept du Tzimtzum, parce que c'est précisément le dieu du Tzimtzum, le dieu des kabbalistes, auquel je crois entièrement, qui se rétracte, qui se contracte pour donner toute la place à l'homme, pour que l'homme prenne ses responsabilités. Et puis, je suis venu ce soir, non pas en espérant, parce que je savais que c'était impossible, mais je me dis, on ne sait jamais, une réponse à une question qui m'est, depuis la tragédie terrifiante du Japon, qui m'est jetée à la figure, comme elle est jetée à la figure de tous les croyants, qui m'étaient non pas jeté, là, mais qui m'a été posé par un ami, un grand ami qui est dans la salle, avant-hier, à laquelle je n'ai pas de réponse. Je trouve qu'il n'y a pas de réponse. Mais il y a une... Et je voulais vous remercier aussi pour ne pas avoir donné de réponse. Parce que c'est tellement facile de donner des réponses qui ne correspondent pas, qui sont insupportables. Donc je vous remercie pour ne pas avoir donné de réponse. Parce qu'il y a une spécificité pour moi dans la tragédie du Japon. Très souvent, les tragédies, elles sont, ou au moins dans leurs conséquences, elles sont liées au fait que l'homme ne s'est pas comporté de façon responsable. C'est-à-dire, quand les abeilles meurent, ça n'est pas la faute de Dieu. Quand il y a des déserts qui s'étendent, ça n'est pas la faute de Dieu, c'est parce que les hommes ont déforesté. Quand il y a des centrales nucléaires qui explosent, alors c'est un peu complexe parce qu'on ne peut jamais tout prévoir, le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, là, il y a la responsabilité humaine qui est engagée. Mais je dis qu'il y a une spécificité pour moi dans la tragédie du Japon au sens où la cause, c'est quand même le phénomène qui touche aux plaques tectoniques. Et là, autant on peut dire Dieu se rétracte, se contracte pour laisser la place à l'homme pour parachever la création. Mais ce qu'on me dit, moi, comme dirait mon petit-fils qui a 4 ans et demi, gros malin, explique-moi. Ce qu'on me dit, mais là, comment ne pas... Alors, je ne fais pas mienne cette question, hein, bien entendu. Ce que je dirais, je ne vais pas me concentrer là-dessus parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire. Je dirais quoi, par exemple? Mais les non-croyants peuvent nous dire, mais comment Dieu aurait-il pu confier à l'homme cette tâche? Ça ne relève pas de l'homme, la configuration de l'univers, disons. Donc comment répondre? Alors, il y a pas, bien entendu, il n'y a pas de réponse, mais c'est une sacrée question quand même. Mais moi, je me dis qu'en fait, et la réponse que j'ai faite à l'ami qui est dans la salle, et j'ai été très souvent interpellé, moi je ne fais jamais de prosélytisme, mais je ne cache pas ma foi, je ne cache pas combien je suis habité, animé par ma foi. Donc quand il y a quelque chose, c'est vrai que j'en prends plein la figure, et là j'en ai pris plein la figure. Je dis, je n'ai pas de réponse au pourquoi, parce qu'à mon sens, il n'y a pas de réponse au pourquoi. Par contre, il y a des réponses à où et à comment. La réponse à où et à que fait Dieu? Où est Dieu? Ben pour moi, Dieu, il est aux côtés de cette femme qui pleure son enfant disparu. Et je reprends un peu ce que disait Elie Wiesel quand il raconte ce qu'il a vécu. Lorsque les nazis ont pendu deux hommes et un adolescent, et que les deux hommes sont morts tout de suite, mais l'adolescent a agonisé pendant une demi-heure, et quelqu'un a dit derrière lui, plusieurs reprises, « Mais où il est, Dieu? Où il est ?» Et Elie Wiesel dit, « J'ai entendu en moi une voix qui disait, « Il est au bout de la corde. » Et je me dis que Dieu, il est là, auprès de ceux qui sont dans cette détresse terrifiante. Donc je sais où il est, Dieu. Mais je dirais qu'il est aussi parmi nous, Dieu. Il est là ce soir, parmi nous tous, parce qu'il nous confie une tâche à laquelle on ne peut pas échapper. La tâche, c'est d'être aux côtés de ces gens qui sont dans la détresse, aux côtés par la prière, parce que je crois que la prière, elle fait des miracles. Et qu'on peut prier sans cesse pour ce qui se passe au Japon. Et je remercie encore Eliane pour le temps de silence-prière qu'on a eu au départ. C'est Jean-Albert qui avait insufflé, ça ne m'étonne pas. Merci Jean-Albert. Et puis, deuxième chose qu'on peut faire aussi, c'est, quand on a la possibilité financière de le faire, c'est de nous tenir aux côtés des associations qui font un travail remarquable sur le terrain. Je ne vais pas donner de nom, peu importe, parce qu'elles ont besoin d'être soutenues financièrement pour être présentes là. Donc on a notre place à... Donc je dis, le pourquoi, on ne saura pas. Par contre, on peut traiter le comment. Et le comment, il se traite par la prière et par l'assistance, par les moyens que Dieu nous accorde. Voilà.
Norbert a dit beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Qui veut encore ? Moi, je voudrais simplement rajouter que malheureusement, au Japon, ça nous fait penser à Hiroshima et Nagasaki. Ce pauvre pays qui a subi ce bombardement, donc avec le temps de mort, et qui ne sont pas morts tout de suite, qui sont morts au bout de plusieurs années de radioactivité. Et ça recommence, bien sûr, ce ne sont pas les hommes là, hein. C'est la nature, bien sûr, aussi la centrale nucléaire a été construite par les hommes. Enfin, c'est la conséquence du tsunami, qui a les vagues qui ont inondé la centrale. Et ça nous fait prendre conscience, peut-être, de notre impuissance. Mais il faut quand même garder espoir et garder l'espérance à des jours meilleurs. Et comme disaient Eliane et Norbert, il faut penser à ces pauvres gens qui sont dans la détresse, les corps qu'on retrouve, qui sont ramenés par les vagues. On a connu ça pour la vie. Et on recommence, et en plus, il y a le nucléaire en plus. Moi, je me permets d'enchaîner un petit peu sur ce sujet, parce que j'ai une voisine dont la belle-fille était dans les airs, précisément en allant au Japon, elle est japonaise. Et elle a eu des nouvelles très tardivement, et ce qu'il y a de beau là-bas, c'est qu'il y a des hommes qui en ce moment se sacrifient volontairement pour lutter contre ce nucléaire, en sachant pertinemment. Et ce geste est quelque chose de toute beauté. Et il faut y penser. Moi aussi, je suis en prière constamment en pensant à cela. Voilà. Et puis, je voulais ajouter modestement, en parlant du temps, la notion de temps. J'entends tellement répéter, je n'ai pas le temps, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas le temps. Et je n'ai jamais prononcé cela. J'ai toujours dit quelquefois, je réponds à ces gens, le temps, si vous voulez le trouver, c'est temps, vous avez la liberté de le trouver et de le chercher. Vous pouvez trouver toujours le temps, surtout quand il s'agit de faire une bonne action, de penser aux autres et de laisser un peu ses loisirs de côté pour se pencher sur le malheur du monde, et il y en a autour de nous.
Oui.
Oui, je voulais justement faire écho aussi à ce que vous disiez, parce que j'ai été sensible aussi dans ce qu'on a vu à la télévision ou alors dans les journaux, ce qu'ils disent aussi du comportement des Japonais, hein, de ce courage, et puis en effet, ce que vous soulignez, des gens qui lucidement choisissent de se sacrifier vraiment, hein, oui, tout à fait.
Mais, les gens à Tokyo n'ont plus d'eau, n'ont pas à manger.
Mais par rapport,
c'est ton français dans la terre, il a traversé le béton et tout, il est en terre.
Non, mais par rapport à ce que disait madame sur le temps aussi, je crois que c'est vraiment, enfin j'insiste, je crois que c'est un enjeu majeur, et là vous parliez justement de ces personnes qui disent oui, je n'ai pas le temps, je ne peux pas, et en effet je pense que là c'est vraiment le principe de la liberté humaine qui est en jeu, c'est-à-dire que si, évidemment qu'il y a des nécessités, etc., personne ne le nie, mais que on s'est mis aujourd'hui de tels fardeaux, obligations, etc. Les loisirs sont pires que le temps de travail. Les loisirs sont quelque chose d'abominable. Je me souviens, enfin, je vois même encore aujourd'hui dans les enfants, par exemple, du catéchisme, c'est hallucinant pour trouver une possibilité de rencontre. Vraiment, enfin, il n'y a pas le temps. Enfin, il y a tout. Et je pense que à tous les niveaux, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est peut-être de réhabiliter dans un sens absolument positif la notion de sacrifice. Hein, et quand je pense ça, c'est pas du tout pour tomber dans une culture sacrificielle, punitive et culpabilisante. Hein, c'est pas ça du tout. Mais vraiment cette notion positive du sacrifice pour quelque chose, quoi, pour la vie. Enfin, pour la vie, pour la liberté, parce que je crois que c'est une question vraiment fondamentale. Hein. Autrement, tout est banalisé, et l'être humain ne perd complètement sa liberté. Je le vois moi avec les enfants, c'est fou quoi, à 13 ans, 14 ans, mais ils ont des agendas de ministres. Même les vacances pour organiser une sortie ciné-club, c'est l'horreur. C'est quand même. J'en ai pas 50 en plus. Hein. Oui, mais il y a ça, je crois, il y a ça, et puis aussi il y a une sorte de pression sociale, c'est-à-dire qu'on fait comme les autres. Hein, c'est-à-dire qu'il faut absolument des vacances, il faut absolument partir à tel endroit ou à tel autre endroit, il faut absolument faire ceci, il faut absolument faire cela. Hein, l'oubli total du Shabbat, quoi. Hein, l'oubli total du Shabbat et du sens profond du Shabbat. Hein. Oui. Hein. Oui. Tout à fait. Oui. Oui, ce besoin de rythmer la différence, quoi, de créer de l'altérité, de la différence. Et de la même manière, au niveau de la technique, des sciences, etc., il y a des comités d'éthique, hein, maintenant, qui justement essaient d'encadrer, en fait, la marche du progrès, hein, la marche des techniques, la marche de la science, la marche de la médecine. Mais en même temps, on voit bien comme c'est difficile. Hein, c'est pas. C'est-à-dire, ça donne à l'humain une responsabilité quelquefois qui dépasse ses moyens d'aujourd'hui, ses moyens moraux d'aujourd'hui. Et c'est terrible, quoi. Il y a des décisions à prendre qui sont, mais qui quelquefois qui sont hallucinants. Par exemple, je me souviens d'un choix terrible. Je me souviens d'un de mes anciens paroissiens de Palaiseau qui a été en réanimation à Cochin pendant presque 6 mois. Et la décision, par exemple, de débrancher, quand on peut garder en vie, à quel moment est-ce qu'on débranche? Qui décide? Et je trouve que Archelle Charon. Et il y a un moment dit, mais quel sens ça a? Est-ce qu'on ne peut plus accepter de mourir? Enfin, est-ce que on a des problèmes aujourd'hui éthiques qui se posent, qui nous dépassent.
Je crois que le cas d'Ariel Sharon, c'est une question de loi, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'arrêter sa vie. Ce n'est pas une question de décision interne. Enfin, personne ne peut décider. C'est la loi juive, en fait.
On discutait, j'imagine qu'il y a eu des discussions rabbiniques où les rabbins ne sont certainement pas d'accord les uns avec les autres sur cette question-là. Je veux dire que c'est pas, il n'y a jamais une loi comme ça. Donc après, il y a bien sûr ce qui entre en ligne de compte. Après, il y a la famille, il y a des tas d'autres. Moi, je ne suis pas au courant parce que je ne suis pas le dossier de près. Mais il n'y a pas une loi unique. J'imagine qu'il y a des rabbins qui trouvent que c'est absurde, que ça n'a pas de sens.
La loi, c'est un faux prétexte, hein. Tout dépend de la définition qu'on a de la vie. Or, les médecins ont des idées. La loi explique très clairement qui est vivant et qui ne l'est pas. Je pense que même en Israël, si ça n'était pas Ariel Sharon, je pense que les excès de survie, enfin de sous-vie, comme dirait mon voisin, auraient été arrêtés et la nature aurait fait son... On n'a pas assez de respirateurs pour garder sous respirateur tous les comateux. Et les motards qui se scratchent le samedi soir ont plus besoin d'un respirateur pour les quelques jours où ils vont être en coma artificiel. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Enfin, c'est une réponse. Hein. Mais donc, d'où l'importance des comités d'éthique, parce que la science est indispensable. Je vous remercie de l'avoir dit, parce que c'est trop facile de toujours tout jeter dans le bébé avec l'eau du bain. Mais c'est comme les réacteurs nucléaires, ça demande à être maîtrisé. Et l'homme a beaucoup de mal. Il demande de la liberté, mais cette liberté entraîne une responsabilité et souvent il fuit cette responsabilité. Donc j'ai bien aimé la parabole des talents parce que c'est à peu près ça. On veut être libre et puis on enterre notre talent en oubliant que c'était donné et qu'il faut le partager. Voilà.
Je voudrais, pour faire écho à ce qu'a dit Jeannette tout à l'heure, je voudrais ajouter une profession pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration dans ce qui se passe au Japon. Parce que c'est une profession qui nous offre trop souvent le pire, et là, tout au moins certains membres de cette profession nous offrent en ce moment le meilleur. Je veux parler des journalistes. J'ai entendu un journaliste qui a dit qu'il avait la possibilité, sa rédaction lui demandait de rentrer. Il a dit non, je ne rentre pas, je sais le danger auquel je suis exposé, mais je choisis de rester sur place pour témoigner, parce que on est donc il y a eu le temps qui a été évoqué, et on vit dans un processus extrêmement pernicieux de zapping. Et malgré cette dimension exceptionnelle de tragédie, on aura très vite fait de passer à autre chose. Et lui dit, je veux témoigner pour deux raisons. Premièrement, pour qu'on n'oublie pas, et donc pour que les gens se mobilisent, ne serait-ce que pour, il n'a pas parlé de la prière, bien entendu, se mobilisent pour apporter de l'argent aux associations qui vont intervenir, mais aussi pour une autre raison, c'est pour que les citoyens du monde entier se mobilisent pour exiger de leurs responsables politiques, notamment lorsqu'il y a des installations nucléaires, comme c'est le cas en France, parce que on est au deuxième rang mondial, pour qu'on s'interroge sur ce fameux retour d'expérience qui est souvent réduit à un effet d'annonce. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail qui est... C'est une sorte de sacrifice aussi. Et il y a beaucoup de journalistes qui nous offrent le pire, et là, on est dans le meilleur.
Assez jeune, j'étais étonnée, déjà comme enfant, ce que les hommes pouvaient faire comme invention. Mais très vite, j'étais encore plus étonnée quand ils avaient terminé leur invention, ils étaient émerveillés devant l'œuvre, et quand ils mettaient l'œuvre en marche, ils se rendaient compte que ce n'est pas eux qu'ils pouvaient donner l'œuvre, et que c'est leur œuvre qui les dominait. Avant de venir ici ce soir, parce que l'âge m'a beaucoup pris, mais elle m'a donné aussi du temps, j'ai écouté à la télévision l'émission C'est dans l'air. Et naturellement, on parlait du Japon et des ouvrages, tout ce qui nous touche tellement. Et bien là aussi, il y avait des spécialistes, des grands spécialistes, et on leur posait la question, que faut-il faire, nous, apprendre? Et la réponse était par tous la même, c'est trop tôt, il faut qu'il y a beaucoup de temps qui passe, que nous puissions apprendre comment faire dans l'avenir pour éviter et faire mieux. Alors, l'avenir, c'est de vous parler du temps, le passé, le présent, l'avenir. Or, l'avenir est tellement absolument inattendu que même l'homme le plus intelligent est devant le noir, il ne sait pas du tout ce qui peut arriver, absolument pas. Et par moments, je me dis finalement, qu'est-ce qu'il nous reste à nous à faire? Nous qui sommes, surtout nous les femmes, enfin les hommes aussi, qui avons donné la vie, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je crois qu'en fin de compte, il nous reste qu'une seule chose à faire, envers, à contre tout, espérer.
Par rapport à ce que vous disiez sur l'avenir, ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a quelques années d'un philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis, et pour un catastrophisme éclairé. Et je ne me souviens plus exactement, parce que c'était il y a assez longtemps, mais à un moment donné, il parlait du prophète Jonas. Il parlait aussi d'ailleurs du philosophe Hans Jonas. Et il parlait du prophète Jonas pour dire finalement, donc Jonas doit aller à Ninive pour annoncer la catastrophe, comme châtiment, puisqu'on est dans la théologie de la rétribution au sens biblique du terme. Et en fait, Jonas ne veut pas y aller parce qu'il se doute qu'il va y avoir une repentance collective et que, de ce fait, sa prophétie sera une fausse prophétie. et que donc la, il annonce, il a, évidemment, il va annoncer une catastrophe qui n'arrivera pas. Il n'est pas très content parce que ce sont des ennemis et que ma foi les ennemis. Bon. Et ce philosophe, donc Jean plaidait un petit peu pour un catastrophisme éclairé, c'est-à-dire pour une, vraiment une lucidité vis-à-vis de tout ce qui peut arriver quand même de très dangereux. Alors ça, en même temps, il faut pas, on ne va pas tomber dans un dans une sorte de mouvement apocalyptique ou etc. Mais une lucidité quand même avec ce principe de précaution. Alors évidemment, dans un sens aussi raisonnable, parce qu'on ne peut pas vivre dans l'obsession de se protéger de tout, parce qu'autrement on ne vit plus. Hein. Mais c'est vrai que quelquefois, on se dit qu'il y a peut-être un juste milieu entre une espèce d'optimisme vis-à-vis du progrès, vis-à-vis de la technique, etc., qui ont aussi un côté exaltant, il n'y a pas à dire. Il y a peut-être un équilibre entre cet optimisme et un pessimisme foncier qui verrait le mal partout et le danger partout. Mais peut-être qu'il y a une lucidité entre les deux. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même ce qu'on entend aussi dans les discours aujourd'hui, quand même, ce rappel à la réalité et à la prudence et à la responsabilité vis-à-vis des générations futures, quoi.
Vous avez employé le mot apocalyptique et moi je voulais vous poser la question justement pour revenir au texte. Parce qu'après tout, il est dit que dans nos textes, tellement de choses sont écrites, tout est écrit, tout est question bien sûr d'interprétation et c'est pour ça que ça dure tant dans le temps et ça peut encore durer peut-être des milliers d'années d'interpréter nos textes bibliques. Mais il est sûr que, qu'est-ce que ça veut dire apocalyptique et qu'est-ce que ça veut dire apocalypse? Est-ce qu'on est vraiment dans un temps d'apocalypse? Est-ce que ce temps mènera à une rédemption? Est-ce que ce temps mènera à l'avenue du Messie? Est-ce que nous devons passer par là et de commencer par, juste commencer ou continuer, peut-être continuer même, entre les guerres qu'il y a eu avant, l'horreur, entre maintenant la terre qui nous vomit presque, parce que c'est tellement terrible ce qui se passe, et nous ne contrôlons rien, là, justement, et nous sommes habitués à contrôler. Donc, qui dit contrôle, dit manque de confiance. Si on n'a plus confiance, comment va-t-on vivre dans l'angoisse? On va perdre notre humanité, on perdra ce point d'intériorité profond qui est peut-être notre néfèche, notre âme. Moi, voilà les questions aussi que je me pose. Alors, vous, en tant que, je dirais, religieuse, au sens de pasteur, que dites-vous, vous, de l'Apocalypse et que dites-vous de ce lien avec ce qui se passe aujourd'hui ou qui pourrait ou qui s'était passé?
Alors, par rapport à cette question de l'Apocalypse, évidemment, on retient toujours de l'Apocalypse cette idée de catastrophe, alors que ça veut dire révélation, hein, donc mise en lumière. Donc finalement, il y a quelque chose d'éminemment positif dans la notion d'Apocalypse. Alors, ce qui, bien sûr, paraît moins positif, c'est que ce temps de lumière est précédé de grandes catastrophes, bon, telles qu'on en trouve dans la Bible, et puis même dans les évangiles, les petits apocalypses, dans le livre de l'Apocalypse, etc. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que par rapport au mouvement prophétique, parce que finalement l'Apocalypse c'est aussi un style de prophétie en réalité, je crois que il faut bien voir que il ne s'agit pas de Madame Soleil, enfin, je veux dire, il ne s'agit pas d'une sorte de divination visant à prédire ce qui va se passer, dans combien de temps, comment, etc., etc. Le prophète biblique, donc qui est traversé par la parole de Dieu, par ce souffle de Dieu, en fait, c'est celui, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est un excellent politologue. Non, je laïcise volontairement cette image. Non, pour dire que je crois que les prophètes bibliques, voient ce qui va se passer en fonction de ce qui se passe dans le présent. C'est-à-dire, de manière très concrète, ils disent, regardez ce qu'on fait actuellement, regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez l'injustice, regardez la corruption, regardez l'oubli des limites, regardez l'idolâtrie, tout ça, vous voulez savoir à quoi ça mène? Ben, regardez devant, voilà à quoi ça mène. Je crois que le prophète, c'est ça. Hein. Il dit, regardez tout ce que vous faites, voilà à quoi ça mène. Mais, en fait, et là, c'est là que M. Dupuis, justement, je trouve que est très bon, il dit, le prophète, il fait ça pour que ça n'arrive pas. Hein. C'est comme quand une maman dit à son gamin, attention, tu vas te faire écraser par une voiture. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir ou de souhaiter que le gamin se fasse renverser par la voiture. Il s'agit de dire, attention, la manière dont il se comporte fait que voilà ce qui va se passer. Hein. Donc, je pense que pour l'Apocalypse, c'est pareil, mais en même temps, vous parliez, madame, de l'espérance, je crois que, justement, dans l'apocalyptique, on voit toujours, donc, en effet, cette lucidité sur l'action humaine, hein, et où ça mène, et toujours avec l'annonce, hein, l'annonce quand même, l'annonce d'un Dieu qui n'abandonne pas sa création ni ses créatures. C'est-à-dire qui est toujours là, derrière, hein, et qui se révèle, quoi. C'est-à-dire que ce n'est jamais le fin mot. C'est-à-dire que même avec les pires choses qu'on puisse faire, il y a toujours cette idée, mais Dieu n'abandonne pas son peuple, et Dieu n'abandonne pas sa création, et justement, il cherche toujours cette rédemption, hein, ce salut. Donc, l'Apocalypse, en effet, il y a des moments où je trouve que la littérature biblique nous éclaire pour regarder ce qui se passe. Et en même temps, je dis toujours, surtout, il ne faut pas commencer, à faire une lecture littérale et à calculer, à vouloir mieux savoir ce que Dieu veut, en prévoyant ce qui va se passer de manière concrète, à telle date, etc., comme ça se passe dans certains mouvements fondamentalistes. Hein, je crois qu'il faut toujours le lire à un niveau symbolique, et comme je le dis à mes catéchumènes, quand on dit à un niveau symbolique, ça ne veut pas dire que c'est pipeau. Le symbole, il n'y a pas de chose, il n'y a rien qui soit plus riche que le symbole, je veux dire. C'est notre air, c'est ce qu'on respire. Voilà.
Ce qui m'a beaucoup touchée, alors je redescends dans des choses plus simples, quoique le Japon me touche aussi, mais j'ai été touchée par ce que vous avez dit sur le Shabbat. Je me suis sentie interpellée parce que le Shabbat, le dimanche, qu'est-ce qu'on va faire le dimanche? On met plein de choses et j'étais en train d'oublier l'essentiel qui est d'abord de se poser et puis de prier et puis éventuellement d'aller à un office avec d'autres, même si l'office n'est pas toujours à mon goût. Mais merci de m'avoir rappelé la nécessité du Shabbat dans la vie. Et j'ai bien aimé, vous avez dit, l'écologie du Shabbat. Eh bien, c'est une écologie dans notre vie surbookée, comme disent les jeunes, et puis on n'a pas le temps. Alors, merci.
Moi, je voudrais dire combien je suis heureux de ce que vous venez de dire, à savoir que Dieu ne nous abandonne jamais. Parce que on va entendre bientôt les prophètes de malheur, ceux qui font une lecture fondamentaliste, littéraliste, comme vous avez dit tout à l'heure, y compris chez nous protestants. Je ne parle même pas des témoins de Jéhovah. Et vous n'êtes pas du tout dans cette ligne-là. Moi, je suis heureux d'entendre ça. Ça rejoint ce que disait Irmela tout à l'heure, l'espérance. Parce que, en fait, Dieu ne nous abandonne pas, même quand on va jusqu'au pire de nos errances. Il nous suit sans approuver, Il réprouve même, mais il nous suit quand même, toujours prêt à nous tendre la main pour nous remettre debout et en marche dans la bonne direction. Et c'est complètement différent de ce qu'on nous dit. On dit, ah voilà, ça, ça arrive, parce que j'ai dit ça là. Et ça, c'est pas important. Pourtant, c'est qu'il est toujours là. C'est pour ça que je dis qu'il est là, même si eux ne le perçoivent pas. Il est là. Il essaye de remettre debout la maman qui a perdu son fils. Il est là. Voilà. Merci beaucoup.
Il y a une chose que je trouve très, très belle et très intéressante, justement, dans la tradition juive, c'est qu'on dit, il est dit que le repentir a été créé en même temps, au tout commencement. Je veux dire que je trouve ça assez extraordinaire, parce que c'est vraiment, ça rejoint tout à fait cette idée de l'espérance, c'est-à-dire que le repentir est quelque chose d'originel. Pour bien dire que, justement, l'être humain peut toujours se retourner vers Dieu et retourner vers lui-même de ce fait aussi, vers son défèche. Je crois que ça, c'est de penser que c'est au commencement, c'est ça. Hein.
C'est la teshuva, effectivement, le retour.
Oui, je voulais me permettre de reprendre un mot que vous avez prononcé, je crois, le mot de lucidité nécessaire, et puis qui me semble absolument fondamental. Et là, je voulais quand même citer quelqu'un qui ne se prétendait pas croyant, Albert Camus, qui, dans son discours de Suède, a eu le courage de dire qu'il fallait se faire une sagesse, je crois que c'est pas une sagesse, par temps de tempête. Et nous y sommes toujours. Et je pense que c'est la dignité qui concerne l'homme, en général, en dehors de toutes les croyances et convictions. Maintenant, je voulais réagir sur le livre, à ce que vient de dire Norbert, que vous avez dit. Je dis peut-être maladroitement, j'ai lu le livre de Hans Jonas sur Dieu et Auschwitz. La question est très simple, et il y a sans doute pas de réponse, mais où était Dieu au moment d'Auschwitz? C'est tout, quoi. Je ne réponds pas. Alors je crois que lui arrive à l'idée que Dieu était absent, qu'il n'était pas là, que l'homme était seul. Mais je pense que la question du mal est une question majeure. Tout à l'heure, vous avez évoqué aussi Rousseau et Voltaire, même si c'est il y a 3 siècles. En fait, c'était déjà cette question-là qui harcelait les hommes. Et je pense alors, d'une part, l'espèce d'idéalisme positif de Leibniz d'un côté, puis d'autre part, Voltaire, qui avec son talent extraordinaire a démantelé cette espèce et je trouve qu'il nous manque parfois des Voltaire aussi pour nous ramener aux réalités.
Oui, là on arrive à cette grande question justement de l'absence de Dieu, et c'est vrai qu'il y a un livre aussi extraordinaire, c'est le livre d'Émile Fattenheim sur cette question. Je ne me souviens plus exactement parce que c'est un livre extrêmement dense, mais il me semble qu'il y avait dans ce livre aussi pas un avertissement, je dirais pas ça, mais plutôt l'idée qu'il fallait en même temps ne pas s'arrêter et s'installer dans cette idée d'absence de Dieu, mais que c'était un cheminement et qui faisait qu'en fait on rencontrait Dieu dans son absence. Ça paraît un peu paradoxal ce que je dis, mais c'est pas quelque chose qu'on peut rationaliser, c'est simplement de l'ordre de l'expérience spirituelle. Et quand on parle de ça, ça me fait toujours penser à ce livre extraordinaire d'Etile Soum, hein, Une vie bouleversée, où elle a des lumières incroyables, extraordinaires, et il y a un moment où elle prie Dieu, où elle lui dit... en ce moment, je sais, elle vous voit, en ce moment, je sais que vous ne pouvez rien pour nous. Mais c'est nous qui pouvons quelque chose pour vous. Et nous avons donc la responsabilité, en fait, de votre nom. Et donc, il y a cette espèce de renversement de responsabilité qui nous entraîne enfin, dans des abîmes de méditation. Enfin, je crois que... Voilà.
Nous avons eu la chance d'étudier à une époque donnée le livre d'Etile Soum dans le groupe. c'est une merveille. Les livres, d'ailleurs, puisqu'il y a des interprétations aussi. Et je crois qu'il y a une autre amie qui veut nous dire quelque chose. Solange. Ah, pardon. Merci. Puisqu'il est question de pédagogie divine, hier soir, nous étions plusieurs à aller écouter le rabbin Gage à Genève, qui a parlé de culpabilité et responsabilité. Et il a parlé surtout des commandements et comment l'être humain répond aux commandements. Et il a mentionné quelque chose qui m'avait complètement échappé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que il place les commandements très très haut, il met la barre très haute, de façon à ce que l'être humain ne puisse jamais, ou presque jamais, atteindre les commandements, ce qui met l'être humain dans la position de demander l'aide à Dieu pour ce cheminement vers le salut, vers l'absence de la peur de la mort. Et j'ai trouvé il a développé ça et c'était extrêmement intéressant parce que il y a un gap, il y a une espèce de silence, je ne sais quoi, entre ce que on peut parvenir à faire et puis ce qui est proposé. Et là, enfin moi en tout cas, il y a une espèce de panique, mais jamais j'arriverai. Et Rabbin Gage est allé encore plus loin en disant que si Dieu avait placé les commandements atteignables pour nous, alors nous serions dans un orgueil immense. Et il a développé tout ça et c'était hyper intéressant.
Oui, en écho, je dirais que ce que vous me dites me fait beaucoup penser à Luther en réalité, parce que je crois que c'est typiquement l'expérience spirituelle de Luther. À savoir cette expérience justement de l'incapacité finalement de remplir le contrat, enfin, pour dire les choses comme ça, enfin, d'obéir au commandement, et qui pendant toute une partie de sa vie l'a plongé dans une forme de désespoir en disant mais en fait je ne serai jamais sauvé quoi, puisque j'y arrive pas, c'est pas possible, jusqu'à ce moment où il a eu cette illumination en relisant l'Épître aux Romains, donc il connaissait déjà, mais c'est toujours pareil, on lit un texte et puis un jour on le lit autrement, et où il s'est rendu compte, mais le juste vivra par la foi, c'est-à-dire que finalement c'est la confiance en Dieu qui nous fait sentir qu'il nous aime, et donc que même si on n'arrive pas à remplir les commandements, en fait, ce qui est essentiel et fondateur, c'est la relation, que la relation demeure. Et c'est assez intéressant. Et de ce fait, c'est vrai que Luther a fondé sa théologie sur cette expérience-là, hein, vraiment. Alors que Calvin, justement, lui, a eu une vision peut-être plus positive de la loi, c'est-à-dire qu'il l'a placée après la grâce, c'est-à-dire comme réponse. Dans les liturgies quelquefois luthériennes, enfin ça dépend parce que maintenant on est liturgiquement on change, mais il y a un moment où c'était assez net, il avait dans la loi en premier, donc qui renvoie finalement à mon incapacité, ou la loi après le pardon, qui fait que justement encouragé, renforcé par le rappel du pardon de Dieu, je peux à nouveau essayer. Ça ne veut pas dire que je réussis, parce qu'en effet, il y a toujours, c'est important justement, toujours cette incapacité en fait de réaliser, sinon on serait dans la bonne conscience, quoi. Oui, c'est ça, dans la bonne
Bon, ce qui me revient, évidemment, c'est vaste, hein, tout ce que nous avons à dire, là. Ce que je voudrais dire, c'est que Dieu a créé l'homme, mais il a créé l'homme créateur. Il l'a créé avec toute sa capacité de création. Et la première chose qu'on voit dans la création, c'est le pouvoir de l'homme. Il l'a créé avec le pouvoir. Hein. Évidemment, je sais que dans la Bible, on parle beaucoup du service. Et un service qui n'est pas un pouvoir converti, c'est le service de l'homme asservi, de l'homme esclave. Hein. Tandis que tout service, et tout service de l'homme, c'est un pouvoir converti. C'est-à-dire ce qui est premier en nous, c'est prendre conscience de toutes les capacités créatrices que Dieu met en nous. Alors, je pense que cette création n'est pas achevée. Hein. S'il était achevé, l'homme ne pourrait pas développer ses capacités créatrices. Et je pense à notre, ce que nous avons dit sur le Japon, je vois là un appel, mais un appel collectif, un appel mondial, un appel qu'on devrait prendre bras-le-corps au G20, à toutes les instances internationales. Parce que toute catastrophe, c'est Dieu qui appelle l'homme à sa responsabilité. Et que cette responsabilité, eh bien, nous avons toujours besoin d'en prendre conscience. Sinon, alors, nous restons simplement à nous dire pourquoi tu as fait cela, etc. Donc, je pense que là, si on est mûr comme croyant et comme homme, hein, dans le dynamisme de la création, dans une création inachevée, c'est toujours les événements nous appellent à la responsabilité. Deuxième chose, ce pouvoir, eh bien évidemment, développe toutes les capacités technologiques. Et ces capacités technologiques supposent qu'il y a une finalité. Hein. Et cette finalité, ça veut dire que l'homme exerce le pouvoir, mais c'est pas parce que je peux le faire que je le fais. On parlait tout à l'heure de tout le pouvoir de l'homme sur la source de la vie. Hein. C'est-à-dire, c'est pas parce que je peux le faire, je le fais. Mon pouvoir est toujours lié à la responsabilité. Et à la responsabilité de l'ensemble de, maintenant, de l'humanité. Hein, c'est ça. Alors, moi, je pense que là, c'est un appel. Évidemment, il faut bien qu'on aille secourir, il faut toujours qu'on fasse face à un certain immédiat. Hein. C'est important, mais ce qui est important aussi, c'est que nous puissions découvrir cette responsabilité. Et là, nous sommes sur un terrain politique, c'est-à-dire les budgets pour la recherche, comment nous sommes attentifs hein, à tout ce que fait l'homme chercheur pour que cette création soit de plus en plus habitable par l'homme et réussisse pour l'homme. Donc, vous verrez aussi que les technologies deviennent importantes ben, pour la vie d'homme. C'est-à-dire que demain, on n'ouvrira pas, je m'excuse, Gandhi a parlé de la chèvre et du rouet, c'est important, hein, parce qu'il allait contre le machinisme. Mais on n'ouvrira pas demain 8 milliards d'hommes avec la chèvre et le rouet de Gandhi. Ça veut dire que les technologies donneront les possibilités à l'homme de manger, de vivre, hein, que les canalisations, tout ce qu'on fait pour l'eau soit partout, tout cela aussi, hein, ça fait partie de la vie. J'ai eu faim, m'avait donné à manger, j'ai eu soin, m'avait donné à boire. Alors il me semble qu'il faut intégrer tout ce dynamisme de l'homme appelé à être créateur, mais créateur dans le pouvoir de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a le service de l'homme et ses frères.
Vous nous auriez beaucoup manqué si vous n'aviez rien dit. Heureusement que j'ai à vous titiller parce que vous n'osez pas, mais c'est tellement magnifique toujours ce que vous dites. Et vrai. Est-ce qu'il y a...
Il y a une personne qui est présente dans la salle qui fait que je suis obligé, je me sens obligé d'intervenir, même si je suis déjà trop intervenu. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, à savoir la question de l'absence de Dieu. Personnellement, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et il y a une personne présente dans la salle qui atteste aux yeux de tout le monde combien, à mon sens, c'est faux. Dieu n'était pas absent.
Dieu, il a été congédié par certains hommes qui ont choisi la voie de, la voie de l'inhumanité monstrueuse. Dieu ne s'est pas absenté, on l'a congédié. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont choisi de se faire réceptacle, de se rendre poreux, perméables à la présence de Dieu et qui ont agi en conséquence de façon lumineuse. Et je pense à notre vice-présidente de l'amitié judéo-chrétienne, vice-présidente des Justes de France, Jeanne Brousse. Grâce à elle, elle a montré que Dieu était présent. Et il y a une autre raison qui me fait dire que Dieu n'était pas absent. Ça, je ne sais plus qui le raconte, c'est un juif qui était, ou une juive, je ne sais plus, qui était dans des camps d'extermination, qui disait, mais si Dieu était présent, sinon, alors que les juives, les femmes, avaient parfaitement compris que pour la plupart, elles finiraient par la cheminée, et pourtant, elles étaient là, elles entretenaient le linge, elles s'occupaient des enfants tant que les enfants étaient vivants. C'est-à-dire que l'espérance était là, on retrouve le concept qu'on trouve dans Jérémie, où il achète un champ, l'espérance est là. Et Dieu n'était pas absent, on l'avait congédié, c'est complètement différent.
Merci, mon père.
Moi, je pense que c'est important, mais il faudrait qu'on réfléchisse que cette présence de Dieu est toujours dans l'absence. La présence dans l'absence. Et ça, c'est le fondement pédagogique pour faire grandir l'humanité. Si vous voulez, s'il n'y a que présence, ben on le voit bien, pédagogiquement, ben, l'enfant ne prend pas ses responsabilités. Mais s'il n'y a qu'absence, eh bien non plus, hein, c'est pas quelqu'un qui se construit. Voilà. Donc, ce qui nous construit, c'est la présence dans l'absence. C'est-à-dire que dans cette absence, nous puissions prendre nos responsabilités. Ça, il me semble que, d'ailleurs, pour nous chrétiens, c'est le mystère de l'ascension. À l'ascension, le Christ s'en va. Et il dit, il est bon que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas l'Esprit Saint. C'est-à-dire, vous ne deviendrez pas adulte et responsable. Et que le Christ... Il, si vous voulez, le récit de l'ascension, il disparut avant Dieu, hein, la nuée, qui est la gloire de Dieu d'ailleurs, et puis il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du siècle. Absence, présence, présence dans l'absence. Et je pense que notre maturité de croyant, et la Bible aussi dit tout ça, hein, c'est justement de vivre cette présence dans l'absence, mais une présence qui nous confie la responsabilité.
Oui, par rapport à ça, ce que je voulais dire aussi, c'est que, par ailleurs, puisque nous sommes croyants en un Dieu de relation, un Dieu en alliance, nous ne pouvons pas faire abstraction de l'expérience de l'autre, et notamment cette expérience de l'absence. C'est-à-dire que quelqu'un fait cette expérience de l'absence de Dieu, vous ne pouvez pas proclamer sa présence. Autrement, vous enfoncez, vous séparez complètement de l'autre. Et je pense que on ne peut qu'être dans l'écoute. Et c'est peut-être justement dans l'écoute et dans l'entre-deux que quelque chose peut arriver de l'ordre d'un chemin qui s'ouvre. Mais c'est vrai que, enfin, en tant que pasteur, je pense que d'autres que moi, même n'étant pas pasteur ou prêtre, auront fait cette expérience. On peut rencontrer des gens. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, mais madame le pasteur, mais j'aimerais croire. C'est des personnes qui ne sont pas, vous voyez, athées par choix ou convaincues, etc., mais qui disent, mais j'aimerais croire, j'aimerais espérer, mais je n'y arrive pas. Moi, Dieu ne m'a pas parlé ou m'a parlé. Après, on est dans le langage, dans la parole, donc on dit les choses
d'une certaine manière. Et donc, c'est important d'entendre aussi ce qui se dit là, hein, à la fois de désir, d'ouverture, puis de quelque chose qui ne se passe pas. Et je crois, et là, on ne peut rien dire sinon accompagner et écouter, mais je crois qu'on ne peut pas affirmer justement la présence.
Je voudrais rebondir là-dessus. Je pensais que l'absence, certes, physique, oui, forcément, il n'y a pas, c'est au-delà. Mais l'étude, dans le judaïsme, il y a vraiment cette étude avec l'autre. On n'est jamais seul à étudier. Il y a donc l'autre, son avis, son regard, son interprétation, nos discussions, les pile-poules, et tout ce qui va dans une étude. Le rabbin Gell dit toujours étudie Torah. 5 années, au moins j'ai suivi ses cours, mais il avait raison, et il a toujours raison, je pense, et d'autres ont raison, c'est-à-dire dans cette étude des textes, que ce soit la Torah, que ce soit les évangiles, mais Dieu est là, puisqu'il y a la parole, il y a ce qu'il veut nous dire à travers les lettres hébraïques, c'est tellement sophistiqué, extraordinaire, rien que son nom, qui est innommable, et qui parle déjà du passé, du présent et du futur. Et il nous dit qu'on est à sa ressemblance ou à son image. Mais c'est ça que ça veut nous dire. Que c'est en nous, donc il y a le temps qui va, et c'est en même temps une présence à ce moment-là, mais en même temps de continuer à parler de lui en étudiant, et quand on étudie, on apprend à connaître, on apprend à s'étudier tous, à se connaître, et à ce moment-là, on est vraiment avec la présence de Dieu, ou la présence de Dieu est en nous. Moi, je le vis comme ça, en tout cas. J'ai ce sentiment, plus je vieillis, plus j'apprends, plus je suis auprès des gens, et mieux je ressens cela. Mais ça, c'est presque subjectif, ça. Quand quelqu'un vous dit « je ne peux pas croire » ou « je n'y arrive pas », j'entends aussi, ça c'est très très difficile. Il y a des jours où on croit, il y a des jours où on croit moins. Mais c'est vraiment c'est un chemin. Je crois que c'est un grand, grand chemin avec des hauts et des bas. Là, c'est vraiment le plan spirituel de l'humain. Quelqu'un encore à exprimer, peut-être des paroles. Gérard ne nous a rien dit ce soir. Tu veux pas nous dire quelque chose, Gérard?
J'avais beaucoup de scrupules à demander le micro parce que je dois avouer mon embarras. Il y a certaines choses qui ont été dites qui m'ont assez ou profondément embarrassé, pour des raisons diverses et variées. Je vais me faire l'avocat du diable, donc de Leibniz en l'espèce. Oui, c'est ça, voilà. C'est très embrouillé, je ne sais pas par où commencer. Bon, dire que, autant j'apprécie le fait qu'on ne cherche pas à opposer radicalement la présence à l'absence, autant j'apprécie le fait qu'on puisse dire qu'effectivement Dieu est présent à travers l'absence, autant si c'est pour dire que cela se fait à but pédagogique pour que l'homme puisse grandir, j'y vois une sorte de morgue de la part de l'homme. Si tout ça c'est pour que l'homme puisse grandir, c'est donner une bien grande importance à l'homme, peut-être. Si dire que malgré toutes les atrocités, Dieu n'est pas là parce que c'est l'homme qui le fait fuir, c'est à mon sens retomber dans la théodicée que l'on voulait rejeter. Et donc par là peut-être rejoindre Leibniz. Alors je reviens à Leibniz. Leibniz certes a écrit la théodicée, mais
je ne crois pas qu'on puisse lui attribuer la paternité de cette théorie de la compensation, qu'un mal, finalement, n'est pas grand-chose parce qu'il déboucherait sur un plus grand bien. Ce qu'il dit, à mon avis, cette théorie de la pyramide et des compossibles, etc., c'est que le mal, si peut-être infime, mais est inévitable. Et c'est cette idée, moi, qui m'intéresse, c'est que le mal est inévitable. Et c'est là, peut-être, que je rejoindrai volontiers ce que vous aviez à la fin sur l'importance du temps. C'est-à-dire que le temps, c'est très ambivalent. C'est-à-dire que le temps, c'est positif parce que c'est ce qui nous permet de réparer, mais il y a quelque chose à réparer précisément parce qu'il y a du temps. Parce que si... Enfin, c'est l'imperfection qui fait qu'il y a du temps, et on n'en sort pas, une espèce de boucle comme ça. Et donc, c'est parce que les choses sont à la fois positives et négatives, et le verset, justement, dit bien, choisis la vie pour que tu vives, parce qu'on peut très bien choisir la vie pour ne pas vivre. Et donc, la vie, en soi, n'est pas une valeur, c'est les choix qu'on peut faire qui font des choses, des valeurs ou pas. Voilà, tout ça est très mélangé, très embrouillé, mais voilà, un peu... En brut, ce que j'aurais voulu exprimer assez maladroitement.
Juste pour ajouter un petit peu en faveur de Leibniz, qui effectivement n'a pas besoin d'être défendu, surtout par rapport à ce pauvre Voltaire, c'est que, pour raison garder, il faut quand même se souvenir que s'il n'y avait pas de tremblement de terre, de tsunami, d'éruption volcanique, d'autres cyclones, la Terre serait un astre mort.
Oui, oui. Et alors les étrustes sont peut-être morts comme ça, hein, avec un tsunami. Oui, mais ça arrive aussi dans les champs et les campagnes, mais il n'y a personne. Les villes, c'est parce qu'il y a du monde.
Peut-être qu'on doit habiter autrement la Terre, et je pense à notre pays, par exemple, parce que moi... Par exemple, moi j'habite dans une région qui se vide de ses habitants, et souvent je dis, mais mon Dieu, on pourrait accueillir quand même beaucoup de monde en Limousin. Hein, il y a de l'eau, il y a des champs, et il y a de la place. Et vraiment, quand on voit des agglomérations urbaines qui deviennent de plus en plus gigantesques, et des régions qui se vident, peut-être aussi qu'on doit apprendre à habiter un petit peu autrement l'espace, ça c'est sûr. Mais je crois que ce qui est remis en question, et peut-être, sauf si c'est un des bienfaits de la modernité, c'est peut-être cette propension à donner des explications globales. Hein, et c'est pour ça que j'ai bien aimé citer Voltaire en l'occurrence, mais bon. Mais c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez lu ce petit livre de Paul Ricoeur sur le mal. Et justement, il termine en parlant de l'aporie, en fait, de la pensée humaine face au mal. Il dit, il y a du non-savoir. Et en fait, il faut résister aux tentations globalisantes où on donne le sens de l'histoire et le sens des choses, et où quelque part on sait mieux que Dieu ce que Dieu a voulu ou quel est son plan pour l'éternité. Et je crois que c'est un petit peu, là je caricature, hein, mais je crois que justement j'aime bien cette position qui consiste à dire nous ne savons pas, nous pouvons savoir des choses scientifiques, hein, comme si vous disiez, je suis tout à fait d'accord, la Terre elle est vie, et autrement elle serait morte, de la même manière quand on donne vie à un enfant, on lui donne aussi la mort, enfin, je veux dire, voilà, on a fait dans le temps, donc c'est comme ça. Mais par contre, je trouve que c'est quand même intéressant, et ça je pense que quand on est interrogé, notamment par des gens qui ne sont pas du tout croyants et pas du tout au fait, qui n'ont aucune formation religieuse ou théologique, c'est intéressant aussi de leur dire qu'on peut être croyant sans avoir une espèce de théorie d'ensemble sur Dieu. Parce que souvent, c'est comme ça que les croyants sont caricaturés par les non-croyants. Hein, ils voient un Dieu comme si, tout puissant, barbu, là-haut,
et donc les croyants qui savent, etc., et ils sont tout à fait rassurés pour l'histoire du monde et pour leur propre vie, leur propre mort, parce que tout est un système. Et en fait, nous ne sommes pas dans un système. Nous sommes dans la vie.
Bien, merci. Peut-être que cette belle phrase qui va finir cette conférence remarquable et puis une grande participation de tous au questionnement. Nous avons... Ah oui, il y a été trouvé une boucle d'oreille. Est-ce qu'elle appartient à quelqu'un? Ah, ben voilà. Parfait. Voilà une...